22h, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, le journal Victor Dolande.
Il fait vraiment très chaud, donc soit on reste enfermé chez soi, mais sans la clim, c'est compliqué. Ou alors on essaie de trouver des terrasses ou encore mieux des points d'eau.
Il fait chaud, très chaud sur l'ensemble du pays et le thermomètre devrait encore grimper demain. Plus de 40 degrés attendus dans le sud et 13 départements placés en vigilance orange pour canicule. Donald Trump évoque pour la première fois l'hypothèse d'un report des élections américaines de novembre prochain. Il craint une fraude massive avec le recours au vote électronique. Le chauffeur du poids lourd impliqué dans la mort des 4 enfants sur la Nationale 2 près de Laon vient d'être mis en examen pour homicide involontaire. Avec ces accidents, les autorités multiplient les contrôles, comme ce matin sur l'autoroute A3.
Il faut respecter les distances de sécurité, la vitesse, les temps de conduite, les temps de repos au niveau des poids lourds. Tout ça, ça fait baisser l'accidentalité.
Le constructeur automobile Renault annonce une perte record de 7,5 milliards d'euros au premier trimestre. 2,6 milliards de pertes pour Air France KLM. Les effets de la crise due au coronavirus se font clairement ressentir. Près de 2 ans après le drame de la rue d'Aubagne, la nouvelle ministre du Logement a rencontré des victimes du mal-logement dans la 2e ville de France. Et puis, décollage réussi pour le robot Perseverance. La sonde américaine s'est envolée pour Mars à la mi-journée. Atterrissage prévu en février 2021.
Qu'est-ce que c'est que Mars ? Mars est probablement la Terre congelée dans son passé, il y a 3,5 milliards d'années, à une époque où la vie se développait sur Terre. Mais ce qu'on en sait, c'est que c'était une vie de bactéries.
La bourse de Paris clôture en forte baisse ce soir de 2,13% à 4 852 points. Météo complète à la fin du journal avec Valérie Darmon. Et puis, comme chaque soir cet été, on vous proposera un peu de lecture avec les conseils de Stéphane Place.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Donald Trump a fait du Donald Trump aujourd'hui. Dans un simple tweet, il a posé cette question au peuple américain. Et si l'on reportait les élections ? Ces derniers jours, il avait déjà émis des doutes quant à la possibilité, en temps d'épidémie, d'organiser des élections totalement sécurisées, alors que le vote électronique devrait être généralisé. Le problème, c'est que Donald Trump n'est pas du tout en mesure de prendre une telle décision. Mais s'il pose cette question, c'est aussi parce que les sondages ne sont pas en sa faveur et les attaques sur la gestion de l'épidémie sanitaire pleuvent ces dernières semaines. Benoît Clerc, le candidat Trump, n'est clairement pas en position favorable.
Sur fond de crise économique majeure et d'un bilan catastrophique de la gestion de la Covid-19, Donald Trump lance un ballon d'essai en évoquant, certes avec un point d'interrogation, le report de la présidentielle américaine prévu le 3 novembre prochain, mais cette annonce va sans doute faire du bruit dans les heures qui viennent. Distancé de plus de 10 points dans pratiquement tous les sondages par son challenger, le démocrate Joe Biden, le locataire de la Maison-Blanche ne sait vraiment plus quoi faire pour tenter d'inverser la tendance, surtout dans les États clés qu'il avait remportées en 2016 et dans lesquelles ses équipes investissent depuis plusieurs semaines maintenant des sommes colossales en publicité. Craignant que le vote par correspondance puisse être une source de fraude, le président cherche des solutions pour retarder les échéances judiciaires qui l'attendent s'il était battu. Mais la décision finale ne lui appartient pas, ce sont les parlementaires américains qui décident et la date de l'inauguration est gravée dans le marbre, c'est le 20 janvier prochain que sera installé le 46e président américain.
Merci Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On a d'ailleurs appris aujourd'hui la chute spectaculaire du produit intérieur brut américain de 33%, une baisse pour le 2e trimestre consécutif, ce qui veut dire que les États-Unis sont officiellement en récession. L'autre information du jour, c'est cette vague de chaleur qui s'étend un peu partout en France. Alors ça ne va pas durer forcément longtemps, puisque des orages devraient nous rafraîchir dans 24 à 48 heures. Mais en attendant, le thermomètre a dépassé les 40 degrés dans le sud-ouest du pays. Il a fait même jusqu'à 42 degrés à Saint-Jean-de-Luz. À Lyon, il a fait aussi très chaud aujourd'hui. En ville, les Lyonnais ont chassé l'ombre et les endroits frais. Reportage sur place de Johanna Chabas.
Face à cette chaleur, impossible de rester au soleil, donc certains, pour se rafraîchir, bravent les interdictions. Normalement, les Lyonnais n'ont pas le droit de se baigner dans le Rhône, car c'est trop dangereux. Mais une vingtaine de personnes sont dans l'eau, certains juste pour y tremper les pieds, d'autres carrément pour des longueurs. Selon Jennifer, c'était nécessaire malgré l'interdiction.
J'ai été me tremper les pieds, et voilà, une petite trempette, ça fait pas de mal, je pense. Ça fait du bien d'être un peu à la plage, en plein milieu de la ville, et puis il fait vraiment très chaud, donc soit on reste enfermé chez soi, mais sans la clim, c'est compliqué.
Ou alors on essaie de trouver des terrasses ou encore mieux des points d'eau.
Alors tout le monde a su faire très attention au courant mais aussi aux autres. En pleine crise du coronavirus, les Lyonnais essayent de garder les distances de sécurité. Mais personne ne porte de masque à l'heure où le ministre de la Santé recommande son utilisation même à l'extérieur. C'est difficile pour Clarisse.
C'est vrai que c'est très très compliqué. J'entends que il faut vraiment qu'on le fasse, mais c'est chaud. Surtout aujourd'hui, c'était un pic où il fait vraiment extrêmement chaud aujourd'hui et demain. On essaie de faire attention, mais bon, c'est pas facile, sincèrement.
Elle promet qu'elle portera le masque tout le temps si on l'y oblige. En attendant, cette sortie à la plage est pour elle une bouffée d'air frais avant de pouvoir vraiment partir en vacances en août.
Avec ces très fortes températures, la préfecture d'Île-de-France a décidé une circulation différenciée pour la journée de demain. Un épisode de pollution à l'ozone est attendu. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler entre 5h30 et 20h. C'est aussi sous une très forte chaleur que le président Emmanuel Macron a déposé ses bagages pour 3 semaines de vacances au fort de Brégançon, dans le Var. Ce lieu qu'il a toujours dit apprécier, qu'il a aussi dépoussiéré avec son épouse et où, souvenez-vous, il y a un an, il recevait le président russe Vladimir Poutine et il est arrivé, Frédéric Michel, sans faire beaucoup de bruit.
C'est en toute discrétion, peut-être dès hier soir, que le président a déposé ses valises à Brégançon. Personne n'a vu le couple Macron arriver et encore moins profiter de ses premiers instants de vacances.
Il arrive quand ?
Mais il est arrivé.
Il est arrivé ? Ah très bien, il a besoin de vacances comme tout le monde.
Les vacances présidentielles commencent sous le soleil, le thermomètre affiche 34 degrés et l'eau...
Très bonne, pour 24. Il peut venir, il peut sortir de sa piscine et venir là, il n'y a pas de problème. Pour moi, on a un président qui apprécie le coin.
L'Élysée précise que les vacances du président seront studieuses, peu de sorties et du travail tous les jours. Le chef de l'État pourrait cependant participer à la mi-août aux cérémonies commémorant la libération de Bormes-les-Mimosas. L'occasion peut-être d'un bas de foule, toujours apprécié par les Borméens. Le chef de l'État se réunira aussi avec ses principaux ministres. Un ou plusieurs conseils de défense sanitaire en visioconférence sont prévus. Et l'Élysée indique qu'Emmanuel Macron continue évidemment de suivre les dossiers nationaux et internationaux de son bureau de Brégançon, installé juste à côté de la chambre présidentielle.
Merci Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur. Et le chef de l'État aura forcément beaucoup de travail cet été, notamment pour préparer une reprise économique qui s'annonce très délicate. Renault a publié ce matin ses comptes. Le constructeur automobile affiche les plus grosses pertes de son histoire, un trou de 7 milliards et 300 millions d'euros. Renault, qui avait déjà annoncé fin mai 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France, est victime, comme la plupart des grands groupes mondiaux, de la pandémie. Mais pas seulement, Emmanuel Dutheil.
Oui, ça semble aujourd'hui très loin, le temps où Renault-Nissan était le premier constructeur mondial. On était pourtant seulement en 2017-2018. Mais depuis, tout s'est effondré. Nissan a vu ses ventes fortement reculer, notamment aux États-Unis, un de ses principaux marchés. Le groupe, qui jusque-là apportait chaque année une forte contribution financière à Renault, affiche maintenant des pertes financières colossales. Renault peine aussi, avec des véhicules moins dans l'air du temps. Et puis surtout, ce qui devait faire la force du groupe, cette alliance qui devait faire baisser les coûts, a quasiment volé en éclats après l'éviction de Carlos Ghosn. C'est dans ce contexte que le coronavirus est venu alourdir fortement la facture. Usines et concessions sont restées fermées pendant des semaines, d'où cette perte historique. La direction de Renault le reconnaît, ses résultats sont très mauvais. La situation est sans précédent. Mais pas sans appel, veut malgré tout croire le tout nouveau patron de Renault.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et Renault n'est bien évidemment pas la seule entreprise à afficher des résultats dans le rouge. Air France a enregistré une perte nette de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre. Des chiffres aussi catastrophiques pour la SNCF. L'entreprise perd près de 2,5 milliards d'euros au premier semestre, soit 20% de son chiffre d'affaires.
Europe 1, Victor Dolande.
Deux jours après le terrible accident de la Nationale 2 qui a causé la mort de 4 enfants, le chauffeur du poids lourd vient d'être mis en examen pour homicide involontaire et même pour un délit de fuite commis quelques dizaines de minutes auparavant, un peu plus au sud, à Soissons. En cette période de grande affluence sur les routes, les contrôles des camions se multiplient. C'est le message qu'ont voulu faire passer ce matin les CRS sur l'autoroute A3 au nord de Paris. Une autoroute où circulent chaque jour plus de 16 000 poids lourds. Sur place, reportage pour Europe 1 d'Hélène Terzian.
Le monsieur, voilà, il y a plein de choses. Les contrôles techniques, l'extincteur, le pneu qui est lisse.
Ce poids lourd vient d'être passé au crible comme les deux autres, immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence. Le cumul des infractions constatées par le CRS Sébastien représente un risque pour le chauffeur et les autres conducteurs.
C'est plein de petites choses qui font que, bah, mis bout à bout, en fait, s'il a besoin de faire, par exemple, un freinage d'urgence parce qu'il y a une voiture qui tombe en panne devant lui ou il y a un accident devant lui, peut-être que bah, ses organes de sécurité ne fonctionnent pas bien. Bah, le monsieur, bah, on lui a dit, hein, tout ça, c'est des verbalisations.
Quand on a tort, on a tort. Nous, notre travail, c'est de conduire. Après, bah, y a des règles à suivre pour éviter les accidents.
Le récent accident dans l'Aisne impliquant un poids lourd et qui a coûté la vie à 4 enfants a profondément marqué les chauffeurs routiers. Il rappelle aussi la nécessité de multiplier les contrôles, insiste Jean-Paul Vernet, commandant de la CRS autoroutière Nord-Île-de-France.
Faire respecter les distances de sécurité, la vitesse, les temps de conduite, les temps de repos au niveau des poids lourds, d'arriver à avoir des équipements qui soient corrects. Ça, tout ça, ça fait baisser l'accidentalité. Sortir de la circulation de ce type de véhicule, on va gagner en débit.
Des contrôles encore plus stricts alors que débute demain le grand chassé-croisé entre Juilletistes et Aoussiens. Sur la 3 et l'interdit Europe 1.
16 morts de plus en 24 heures dues au coronavirus et le nombre de personnes en réanimation a très légèrement augmenté aujourd'hui. C'est une première depuis le 9 avril, signe que la recrudescence du nombre de cas est bien là. Vous le savez, depuis hier, le port du masque est recommandé dans l'espace public, y compris à l'extérieur. Et localement, depuis plusieurs mairies imposent même l'obligation de ce port du masque. C'est le cas désormais dans la vieille ville de Saint-Malo et ce jusqu'au 30 août. Et à partir de la semaine prochaine, les habitants de Biarritz et de Bayonne devront également se soumettre à cette obligation. C'est un déplacement très symbolique qu'effectue aujourd'hui la nouvelle ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. Rappelez-vous, il y a 2 ans, le drame de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne avait fait 8 morts. Un drame qui avait provoqué à l'époque une vague d'indignation devant l'ampleur du problème de l'habitat indigne qui frappe la ville de Marseille. Et Emmanuelle Wargon, cet après-midi, a pu constater sur place, Stéphane Frangy, que les blessures sont loin, très loin d'être cicatrisées.
Ah oui, enfin pour les rares qui vivent toujours dans cette rue, éventrée depuis tout ce temps par un large périmètre de protection grillagé, puisqu'à côté des immeubles qui ont été rasés, eh bien, il y en a d'autres qui sont en mauvais état, avec des arrêtés de péril, et tous ont cette impression de ne pas être entendus. C'est pourquoi ils ont interpellé la ministre.
Moi qui habite juste en face des immeubles effondrés, j'ai plein de fissures dans mon immeuble.
C'est juste invivable, on est propriétaire occupant. Moi je continue de payer mon crédit, on ne peut pas les vendre. Il n'y a plus personne, les locataires ils sont tous partis, donc on est coincés. Cette zone qui est une zone de guerre, qui est devenue une zone de non-droit, parce que comme il n'y a plus d'habitants, c'est les dealers qui ont pris la place.
Voilà, et en réponse, Emmanuelle Wargon leur a promis des réunions de proximité et des aides au cas par cas. La ministre, qui souhaite également s'atteler au problème de l'habitat indigne, loin d'être réglé sur l'ensemble de la ville.
4500 personnes évacuées suite à des arrêtés de péril à Marseille, 1000 qui sont relogées dans des logements temporaires, et environ 500 qui sont encore à l'hôtel, sachant qu'on a chaque mois maintenant des arrêtés de péril.
Et cette promesse de financement par l'État de travaux de rénovation, mais également d'un plan de construction de 10 000 logements supplémentaires sur l'ensemble de la ville.
Merci Stéphane Frangy, notre correspondant à Marseille. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a salué aujourd'hui la mémoire de son prédécesseur, Albin Chalandon, qui vient de s'éteindre à l'âge de 100 ans. L'actuel garde des Sceaux rend hommage à un grand serviteur de la République. Albin Chalandon aura même servi sous 2 républiques, la 4e et la 5e. Il fut également une grande figure de la droite gaulliste, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, Albin Chalandon a mené une brillante carrière politique dans les pas du général de Gaulle. Il est d'ailleurs l'un des principaux dirigeants du parti gaulliste avant d'être élu député et d'entrer au gouvernement. Ministre de l'Équipement et du Logement en 1968, il lance notamment un programme de construction de pavillons individuels, des maisons en kit, bon marché, mais ces chalandonnettes se délabrent rapidement. Sur les 65 000 pavillons construits, Albin Chalandon tente de minimiser le fiasco. C'était en 1970. Au Club de la Presse sur Europe 1.
Environ 4000 ou 4500 ont des ennuis graves. C'est déjà beaucoup, c'est beaucoup trop. Mais enfin, il y a tous les autres et on ne va jamais les interroger. Et je me rappelle, pour avoir inauguré certains de ces villages, à quel point les gens étaient heureux. Alors j'aimerais bien que l'on présente les choses avec plus d'objectivité.
En 1977, Albin Chalandon est alors patron d'Elf Aquitaine jusqu'en 1983. Il revient ensuite en politique en 1986 en tant que ministre de la Justice, où il se fait l'artisan d'une politique sécuritaire. Combattant de la libération, dirigeant d'entreprise, baron du gaullisme, Albin Chalandon était aussi le mentor de Rachida Dati, qui se dit aujourd'hui inconsolable. C'était plus qu'un ami, explique-t-elle, quelqu'un qui vous sauve la vie, ne vous lâche jamais la main.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Nous adressons ce soir une pensée forcément émue pour celle qui l'a accompagné pendant tant d'années. Notre consoeur grande voix d'Europe 1, Catherine Ney, à qui toute la maison Europe 1 adresse ses condoléances.
Victor Dolande sur Europe 1.
Ça y est, le petit robot de la NASA Perseverance a décollé à bord de son vaisseau en début d'après-midi, direction Mars.
2, 1, 0. And lift off.
Et c'est un très grand voyage qui a débuté. Il faudra près de 7 mois pour atteindre la mystérieuse planète rouge. Équipé de son bras articulé et d'une caméra made in France, le robot va scruter et décortiquer la roche de la planète, où l'on sait qu'il y a eu de l'eau, mais lors d'Autriche, on ne sait toujours pas s'il y a eu un jour de la vie sur Mars.
Oui, sur Mars, il y a 3 milliards et demi d'années, l'eau coulait effectivement à flot. Mars était couverte de lacs et de rivières avant que la planète ne devienne froide et sèche pour une raison qui échappe encore aux scientifiques. Avant cela, donc, des microbes, des bactéries ont pu se développer. Il en reste peut-être des traces et ce robot va prélever une trentaine d'échantillons dans des tubes à la recherche d'une forme de vie. Il doit se poser précisément dans un gigantesque cratère de 50 km de diamètre où il y a eu des lacs et des rivières, explique l'astrophysicien Sylvestre Maurice.
C'est vraiment un delta lac-rivière qui va être intéressant. Et en signature infrarouge depuis l'espace, on a vu qu'il y avait des carbonates. Ce n'est pas une roche la plus intéressante, mais sur Terre, on sait qu'elle piège des traces de vie. Alors les traces de vie, ça va être soit des molécules organiques, soit leur signature minéralogique. C'est-à-dire que la molécule a disparu, mais elle a laissé derrière elle une empreinte.
Et ce robot emporte avec lui un petit hélicoptère qui tentera une première, le vol d'un appareil sur une autre planète que la Terre. Alors, 45 missions ont déjà eu lieu vers Mars, mais aucune n'est jamais revenue. Et là, pour la première fois, on va tenter de rapporter ces échantillons sur Terre. Pas tout de suite, dans 10 ans au minimum. C'est très compliqué de redécoller de Mars. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et au mois de février prochain, il faudra d'abord scruter l'arrivée du robot sur Mars. Étape très délicate. Lorsque les missions sur Mars échouent, c'est souvent au moment de l'atterrissage.
Merci, Lord d'Autriche. On apprend ce soir que le vaisseau transportant le robot avait connu quelques difficultés. Des contrôles sont en cours. Mais la NASA se veut rassurante pour le moment. En sport, place demain soir à la finale de la Coupe de la Ligue. Une semaine après sa victoire en Coupe de France, le PSG continue sa préparation pour son match le plus important de la saison, le 12 août prochain en quart de finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi de ce PSG-Lyon demain à 21h10 dans un stade de France qui devrait sonner un peu creux. Le protocole reste le même, pas plus de 5000 personnes et une distanciation requise. Et pour cette rencontre, l'enjeu sera aussi de taille pour l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas. Le club aura l'occasion de sauver sa saison très décevante, Julien Froment.
En effet, dernière opportunité d'accrocher l'Europe et surtout une occasion en or de se resservir une coupe. L'entraîneur Rudy Garcia, dans une langue de bois qu'il maîtrise à merveille, a rappelé qu'il était important que l'OL reparte du Stade de France avec le trophée.
Ça fait trop longtemps que l'Olympique lyonnais n'a pas gagné un trophée, 2012 je crois. Donc voilà, il faut absolument croquer à pleines dents dans cette opportunité et ramener le trophée demain soir à Lyon. Il n'y a que ça qui nous anime, c'est quelque chose de magnifique. Et voilà, donc on pense qu'à une chose, c'est ça. C'est pression positive, gagner ce trophée.
Et face à eux, des Parisiens qui devront faire sans Kylian Mbappé, grand absent de cette finale. Pour autant, Paris ne sera pas démuni. Thomas Tuchel compte bien poursuivre la razzia nationale et remporter un troisième trophée après la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais pas question de faire des ultimes tests avant l'Atalanta Bergame, quart de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 12 août prochain. L'entraîneur allemand veut une équipe concentrée sur son objectif. Il sera temps ensuite de penser au club lombard.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et bien en foot toujours, le président de la FIFA, Gianni Infantino, devra s'expliquer devant la justice suisse qui annonce qu'une enquête est ouverte, soupçonnant une collusion entre Infantino et l'ancien procureur suisse qui enquêtait sur des faits de corruption. et qui avait lui-même démissionné après ces révélations. La Bourse de Paris clôture en forte baisse ce soir de 2,13% à 4852 points. Il est 22h18 sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil à la météo de demain.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
La météo avec vous, Valérie Darmon, et cette chaleur étouffante, Valérie, de plus en plus présente.
Eh bien, la nuit prochaine sera chaude, voire plus chaude que la nuit dernière, avec près de 24 en région lyonnaise. Même chose d'ailleurs pour la nuit de vendredi à samedi. Alors c'est ce vendredi que les températures vont atteindre leur apogée sur les 13 départements placés en vigilance orange. Samedi et dimanche, la chaleur deviendra progressivement moins intense par l'ouest et le nord-ouest, mais les températures devraient rester tout de même très élevées dans la journée de samedi, avant un rafraîchissement plus sensible dimanche. Alors je vous donne quelques maximales. Bien évidemment, 42 à Auxerre, annoncé par Météo France ce vendredi après-midi. 40 à Lyon, Paris, Saint-Étienne, Dijon et Troyes. 38 à Charleville, Brive-la-Gaillarde et Châteauroux. 36 à Embrun et Toulouse. 33 à Périgueux et Mont-de-Marsan. 30 degrés à Bordeaux et Montpellier. Et 26 à La Rochelle et à Cherbourg.
Merci Valérie Darmon. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit, Victor Dolande.
Depuis le début de l'été, Europe 1 s'associe avec la librairie Mola à Bordeaux pour vous offrir des conseils lecture pour vos vacances. Un jour, un conseil littéraire avec vous, Stéphane Place. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Victor, bonsoir à tous.
Ce soir, vous nous proposez une biographie sur l'un des personnages qui a marqué l'histoire du XXe siècle aux États-Unis. Un gangster nommé Meyer Lansky, suffisamment malin pour n'avoir passé aucun jour derrière les barreaux. Un livre écrit par Robert Lacey, intitulé « Meyer Lansky, le cerveau de la mafia ».
Une intelligence au service du crime. Après avoir débarqué aux États-Unis en 1911, Meyer Lansky va passer du statut de petit voyou de Manhattan à celui d'éminence grise de la mafia américaine. Et à la différence d'un Capone, Lansky va comprendre que pour échapper à la justice, la clé, c'est le blanchiment de l'argent sale. Il faut investir les gains faramineux générés par les activités illicites dans des entreprises légales. Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, une biographie captivante que vous recommande Pierre Coutel, libraire chez Mola.
À un moment, il a toute une activité bancaire, alors qu'il ne sera pas très heureux d'ailleurs, qui finira mal. Finalement, il aurait pu effectivement être un capitaine d'industrie tout à fait classique, mais la question de l'intelligence fait qu'il faut que tout soit plus grand. Il y a chez lui un désir d'être le plus fort, alors pas celui qui aura la plus belle maison, mais celui qui montrera le système le plus intelligent, le plus incroyable. Et effectivement, pour ça, il faut quelque chose qui sorte des clous, qui sorte des normes, et le gangstérisme le permet plus facilement, on va dire, que le monde de l'économie classique. Il n'a pas un mode de vie incroyable, parce qu'il est très discret, parce qu'il fait des opérations très complexes. Il a un rêve, qui est le rêve cubain, donc c'est le Cuba de la fin des années 40, du début des années 50, de faire de Cuba ce qu'elle a été pour partie, c'est-à-dire une île casino qui serait entièrement à sa main, et évidemment c'est le rêve que va venir briser la révolution cubaine de 1959.
Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, est paru à la manufacture de livres, la maison d'édition que dirige Pierre Fourniaud, propose aussi Lucky Luciano, testament, Luciano qui a inspiré le personnage de Don Corleone dans Le Parrain, et également la biographie de John Edgar Hoover, l'indéboulonnable patron du FBI pendant près d'un demi-siècle. Lansky, Luciano, Hoover, des figures qui racontent une époque, explique l'éditeur.
De même qu'au 19e siècle, il y avait eu la figure du pionnier, du cow-boy, du grand scientifique comme Edison, le 20e siècle a vu la naissance d'une figure un peu mythologique qui a vraiment imprégné la culture dans le monde entier, qui est la figure du petit voyou, souvent issu de l'immigration et qui va, à force de coups de poing et de combines, se construire dans la rue et finir chef d'empire, incarner le rêve américain comme personne. Donc en fait, c'est le paradoxe de cette société très ancrée dans les valeurs du bien et du mal et qui va glorifier ces figures qui sont des figures de criminels qui, à la fin de leur vie, deviennent des figures extrêmement soucieuses de l'ordre établi. Alors, dans ce trio, Hoover détonne un peu, mais c'est sans doute, comme le disait Norman Mailer, un grand romancier américain, celui qui a fait le plus de mal aux États-Unis au XXe siècle, en développant et ensuite en verrouillant l'appareil de police d'État avec la création du FBI. Il s'est rendu complice de beaucoup de méfaits de l'histoire américaine.
Hoover, Lansky, Luciano, trois trajectoires qui se croisent et trois livres qui se dévorent.
Merci Stéphane Place, et on rappelle le titre de ce livre, Meyer Lansky, le cerveau de la mafia de Robert Lacey. C'est aux éditions de la Manufacture de Livres. Et cette chronique avec la librairie Mola à Bordeaux, vous la retrouvez tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc demain pour une autre découverte. Dans un instant, on jettera un œil sur les unes de vos quotidiens demain matin. Mais on va d'abord marquer une petite pause musicale. Pour vous ce soir, le dernier album de Benabar qui est sorti il y a quelques semaines à peine. Je vous propose cette chanson sur la séparation, mais aussi sur l'amour. Une chanson intitulée « Tous les divorcés ». Merci d'écouter Europe 1. Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Le quartier d'affaires de la Défense à la une des Échos demain, avec sous chaque bâtiment des grandes entreprises le chiffre de leurs pertes colossales enregistrées avec la crise sanitaire. Et ce titre, 440, la facture du Covid. Total, Renault, Air France, Airbus et la SNCF sont toutes dans le rouge. Au total, près de 27 milliards de pertes déjà enregistrées. Sur le même sujet, le Figaro publie demain une longue interview du PDG de Renault. Les résultats sont très mauvais, affirme Jean-Dominique Senard, mais Renault va retrouver sa place, assure-t-il. Une question à la une de Libération, faut-il renationaliser Air France? Avec des chiffres catastrophiques au premier semestre, l'entreprise semble dans l'impossibilité de rembourser le prêt de 7 milliards accordé par l'État. Pic de chaleur, 40 degrés sous les masques, voici le titre à la une du Parisien aujourd'hui en France. Les fortes températures qui s'abattent sur la France en pleine crise du Covid-19 incitent à redoubler de vigilance pour prendre soin notamment des personnes les plus vulnérables. La chaleur qui inquiète aussi le monde paysan à la une du Populaire du Centre et les éleveurs se montrent très inquiets face à la sécheresse record. La paille se fait rare et les prix grimpent. Les agriculteurs craignent une pénurie dans les prochaines semaines. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques.